Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que...
On va se calmer.
Hein. Ah non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo?
La famille, c'est Salo.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de Scott.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial drôle de dame. La seule émission à la radio qui parle de foot étranger pendant 2 heures. Pour l'Italie ce soir, Johan Crochet. Bonsoir, Johan.
Salut, Nico. Bonsoir à toutes.
Pour l'Espagne, Fred Armel. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Pour l'Angleterre, Julien Laurence est avec nous. Bonsoir, Julien.
Salut, Nico.
Et pour l'Allemagne, une drôle dame qui fête son Drei und 50 anniversaire ce soir. Bonsoir et bon anniversaire, Paulo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nico, merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde.
Ah, t'es plus jeune que moi.
Bah, oui. Un peu, ouais.
Ouais, moi, j'ai 54, pas 53.
Ouais, j'aurais dit ça, hein, dans un an ou deux écarts, tout ça. Ça me semble assez...
Bah, voilà, ça ne rajeunit pas.
Ouais. Dans l'ordre, t'as pas eu le temps pour une vraie introduction, non, aujourd'hui?
Écoute, c'est semaine de Coupe d'Europe, et pour être honnête,
ah, oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de.
Mais j'ai trouvé très mauvais, tu vois, j'ai même pas remarqué, tu vois. Donc, les semaines précédentes, donc j'ai décidé de faire une pause, et pour, eh bien, faire respirer mon inspiration médiocre. On verra la semaine prochaine.
Il est traumatisé, Nico, par les résultats des coupes anglais, des clubs anglais en Coupe d'Europe?
Non, moi j'aime bien les clubs anglais en Coupe. Moi je regarde la Ligue des Champions, à l'inverse de toi, Johan. Hein. Vous avez regardé d'ailleurs Real Madrid,
moi j'ai regardé City, ou pas Real City. Et...
Ah, t'as regardé quand même,
c'était pas mal quand même.
Ah, je crois que t'aimais pas ce football-là.
Non, mais il y avait Volendam qui jouait en même temps, il savait pas quoi faire.
T'es Volendam, t'as raison.
Avec un nouveau directeur sportif, si je me trompe pas, mon cher Johan.
Ah, Volendam.
Ouais.
Ah, tout a changé, ouais.
Non, pas trop loin, les amis, quand même. Bon, voilà, on va les laisser
bientôt les mutants au football vont arriver. Ça va commencer en première ligue, après ça va être aux Pays-Bas, vous allez voir.
Mais vous voyez, pas d'intro permet de faire ce genre de digression, c'est magnifique, et de ne pas perdre de temps et d'accueillir Gilbert dès maintenant, qui sera là à 22h pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars.
Ça va
et toi, vous voulez le programme?
Bah oui, c'est pour la télé là, hein. C'est pour
ça que... Alors Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter extraordinaire.
Pardon, qu'est-ce qu'il a fait?
Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter extraordinaire. J'ai appris que le Bayern Munich était un club d'extrême gauche élitiste. Je trouve ça assez extraordinaire.
Ah bon, j'ai pas vu, ça m'a échappé, moi.
Donc voilà, je vais revoir mes livres historiques, mais bon.
Oui, c'est un tweetos qui m'a envoyé une carte avec les tendances politiques des différents clubs européens.
Ah, intéressant.
Alors, apparemment,
approximatif.
Vu ce que nous dit Polo, tout n'est pas juste.
Ah, oui.
Ah bon? Et alors, je serais très étonné de savoir ce qu'il a mis sur le Real, parce que là, bien malin, peut dire quelle est la couleur politique
tendance
du Real Madrid.
De quoi, des supporters? Voilà, c'est ouais, ça. Qu'est-ce supporters qui définit une tendance? C'est l'histoire du club ou c'est les supporters? Regarder. Bon, on va regarder. Pour vous dire également qu'à 21h45, vous nous appelez, hein, le 32-16, les auditeurs face au drôle de dame, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. N'hésitez pas à faire le 32-16. On est là. Et puis, vous le savez également, à 22h, Gilbert. Mais d'abord, vos 3 points. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dame? 15 secondes chacune. C'est parti, Johan.
On va revenir sur le match entre l'Udinese et la Roma, mais pas trop sur le sportif, mais plutôt sur le malaise d'Evan Ndika, et tout ce qui a été l'après-match, hein, de cette rencontre à Udine. On va revenir aussi sur le match très 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 compliqué du Milan sur la pelouse de Sassuolo, avec des trous d'air franchement hallucinants, défensivement notamment, et en termes de concentration et d'organisation de cette équipe-là, qui un peu inquiétant pour le sprint final. Un petit mot sur l'Atalanta et son jeu très européen. Et puis, dans la minute, évidemment, on parlera des gardiens.
Bah, bien entendu, on va parler du Barça, hein, avec le 11 des Catalans qui se dessinent pour jouer contre le Paris Saint-Germain mercredi. On va parler du Real, qui pense qu'il peut faire un coup à City. Et puis, Griezmann aussi extraordinaire. Et puis, bien entendu, je vais donner le point de vue espagnol sur le gros événement d'Espagne, c'est-à-dire le titre de Xabi Alonso, parce que ça fait la une des journées en Espagne.
Julien.
On a encore vécu un week-end à rebondissement dans la course au titre en Première Ligue avec les défaites d'Arsenal et de Liverpool. On va revenir dessus, bien sûr, et Manchester City, le leader désormais, le nouveau leader, et qui verra donc le Real de Fredo venir à l'Etihad mercredi soir. Et on aura une sympa aussi sur une équipe promue dans la division supérieure.
D'ailleurs, j'avais une suggestion de musique à la place de ce que t'as envoyé, qui est très bien d'ailleurs, j'ai écouté, hein, pour le club dont tu vas parler. On en parlera tout à l'heure, mon cher Julien. Et puis Polo, 15 secondes.
Bah, évidemment, on va revenir sur le premier titre en Bundesliga du Bayern Wolfsburg Leverkusen, version espagnole un petit peu. On va évidemment se poser la question du match le plus important de la saison pour le Bayern Munich. Le club va-t-il être déclassé ou pas? Et puis, sur la, dans la minute, on va parler oseille, histoire de ne pas changer tellement.
Voilà, voilà, programme des drôles de dames dans Génération After. Alors, Gilbert, le Bayern Munich est-il un club de gauche, réellement?
Bah, là, c'est vrai qu'il peut.
Bon, j'ai regardé le truc,
j'ai le schéma sous les yeux. On met le Real plutôt à droite, mais pas trop non plus, quoi. Plutôt, bah, et très élitiste, plutôt à droite.
Bah, franchement.
Un peu conservateur, le Real, quand même.
Bah, c'est, non, bah, non, c'est, ça, alors, c'est vraiment ne pas connaître la sociologie des supporters du Real, parce que t'as vraiment tout. Tous les partis politiques.
Ah, donc là, on parle des sensibilités de supporters, en fait.
Oui, ouais,
des supporters. Dominantes.
Mmh. Oui, mais je sais pas si c'est historiquement ou actuellement. Parce que, par exemple, moi, je regardais la Roma, ils le mettent à droite. Et plutôt c'est élitiste. Assez, sauf que historiquement, c'est pas du tout ça. Ça l'est devenu. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Enfin,
moi, je constate que Strasbourg n'est pas dans le schéma. Donc,
j'aurais pas dû. J'aurais pas professionnel, Gilbert. On a toujours fait club professionnel.
Allez, son anniversaire, il est en forme, celui-là.
Y a-t-il un club de gauche en Angleterre, mon cher Julien?
Je sais pas du tout.
Sensibilité.
Ça, ça n'existe pas, la gauche en Angleterre.
C'est pour ça que je pose la question. Exactement. Voilà.
Bon, Gilbert. Ils mettent par exemple le Celtic Glasgow, très à gauche.
Oui.
Ah bon? Selon le schéma.
Ils n'ont pas mis le Rayo. Rayo Vallecano, c'est très à gauche.
Oui, Rayo.
C'est très à gauche, le Rayo.
L'OM,
ils le mettent très à gauche, le Rayo, quand même, là.
Oui.
Ah oui, parce que là, s'ils ne mettent pas le Rayo très à gauche.
Voilà, mode. Comme quoi, c'est fiable. Bon, Gilbert, sinon, à 22h, de quoi parlez-vous ce soir?
Soyez attentifs, à 22h, on a une exclue concernant les Jeux Olympiques qu'on vous livrera tout à l'heure. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne sais pas, une annonce bidon. Hein, donc, soyez au rendez-vous à 22h. Ensuite, le PSG, bien sûr, à la veille du match face au Barça. Quelle équipe, quelle dynamique, est-ce qu'il faut y croire? On vous attend au 32-16. Daniel Riolo et Stéphane Guy veulent en parler. Et puis le week-end de Ligue 1, on viendra sur la course à l'Europe, la course au maintien, bien sûr, après les matchs du week-end. Et puis ce qui s'est passé à Marseille, hein, entraînement ouvert au public, 10 000 personnes au stade Vélodrome ce week-end, des enfants en grande partie, puisque c'était le but, donc de venir avec un enfant accompagné. Donc l'engouement autour de l'OM ne faiblit pas, même quand il n'y a pas de match le week-end sur place. Bref, voilà le programme de 22h à minuit, ça promet, comme tous les lundis.
C'est à peine plus qu'au Trianon, hein.
Ouais, c'est un peu plus qu'au Trianon.
Ouais. Oh, très belle soirée d'ailleurs au Trianon. Ouais, et...
Merci Yon.
Ouais, et les auditeurs très sympas d'ailleurs.
Public de gauche ou de droite d'ailleurs? C'est une vraie question aussi. L'After, émission de gauche ou de droite?
Évidemment.
Bah, là, rien qu'autour de la table, je crois que nous avons un spectre assez.
C'est large.
Bah, moi, je ne sais pas. Moi,
On ne sait pas,
c'est clair. Enfin, la gauche pour laquelle j'ai voté, la grande partie de la vie n'existe plus.
D'accord.
Donc je ne sais
donc,
pas.
Donc autant aller voir ailleurs, quoi.
Bah non, mais je ne sais pas aujourd'hui où je me situe.
Bon, très bien.
Et une couronne sur le maillot, ça fait club de gauche ou club de droite, mon cher Fred?
Une couronne sur le maillot, bah écoute, le RC Lens, on a un chevalet de mine et une lampe de mineur. Donc je ne sais pas si. Au Real, il y a la couronne, bien sûr, oui, parce que bah, comme tous les clubs qui s'appellent espagnols qui s'appellent Real. D'ailleurs, la plupart des clubs espagnols s'appellent Real quelque chose.
Allez, parlons foot. Merci Gilbert.
Allez, c'est alors
à 22h. Le Bayern Leverkusen, donc cet élève moqué, harcelé dans la cour de récré du collège, du lycée, qui finit enfin par tarter tout le monde. 120 ans d'espoir, d'attente, de multiples deuxième places, toujours. Et le voilà champion, mon cher Polo. La revanche du Bayern. Ce n'est plus donc le Leverkusen, pour ceux qui ont découvert ce surnom-là, historique. Il y a un autre surnom d'ailleurs, pour évoquer ça. Bah,
c'est surtout Wiskusen, le plus important, plus que Leverkusen. Leverkusen, c'est parce qu'on se moquait un petit peu du fait de ne pas avoir gagné le championnat, ce qui est toujours un peu illogique lorsqu'on voit l'effectif de Leverkusen chaque saison, et notamment la période 1996-2002, celle où est vraiment né le mot Wiskusen. C'est-à-dire, vice, c'est juste vice le second. C'est important parce qu'en fait, si tu veux, dans la joie qu'il y a eu, l'envahissement du terrain, etc., beaucoup ont parlé du premier titre en Bundesliga, mais en fait, t'as l'impression que c'est tout l'historique qui s'est effacé d'un seul coup. Et c'est pour ça que c'était extrêmement joyeux. C'est pas spécialement le fait d'avoir fêté le titre en Bundesliga, c'est qu'on a l'impression finalement que 45 ans en Bundesliga sans discontinuer, et en fait avec le fait d'avoir perdu des titres à la dernière journée, ou le fait d'avoir eu plusieurs fois des avances confortables et d'avoir perdu le championnat à l'avant-dernière journée à l'extérieur, ou des buts contre son camp, des choses comme ça, fait que t'as l'impression qu'on est juste en train de rétablir une histoire qui n'aurait jamais dû arriver, en fait. le dans cette victoire, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment un coach espagnol qui est en train de montrer qu'il est en train de devenir l'un des plus grands coachs européens.
Il faut rappeler pour l'occasion l'histoire, c'est qu'il est arrivé en octobre 2022. Le Bayern était avant-dernier de Bundesliga. Ouais, je crois.
À ce moment-là, ils sont avant-dernier de Bundesliga. Mais ça, c'est typique de Leverkusen et de la Bundesliga aussi. On avait avant le coach suisse Geraldo Seguin qui avait ramené l'équipe en Ligue des Champions. Ça s'était mal passé. On prend Xabi Alonso. Il ramène l'équipe en Europe parce que encore une fois, quand il prend l'équipe, il est théoriquement relégable. Il finit en demi-finale de Ligue des Champions d'Europa League. Il craque en fin de saison, ce qu'on oublie, parce qu'ils avaient encore la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions. Et puis, cette saison, j'ai envie de dire la saison 2, et ben Xabi Alonso avec quelques ajustements comme Boniface, comme Grimaldo par exemple, comme Granit Xhaka, qu'on parle beaucoup de lui en Allemagne en ce moment. Eh ben, on a l'un des plus grands champions de l'histoire de la Bundesliga. J'ai fait une petite erreur hier en parlant de ça. En fait, il y a plusieurs choses. Le Bayer Leverkusen n'est pas le premier club allemand à être champion sans défaite. C'est le Pep Guardiola en 2014. Ce qui ne veut pas dire qu'après qu'ils ont eu le titre, ils n'ont pas commis des défaites.
C'est ça.
Ils n'ont pas eu des défaites. C'est ça la différence.
Et encore en route pour être invincible, quoi.
Voilà. Là, ils peuvent encore être invincibles. Deuxième chose importante. Le Bayern 2013-2014 de Guardiola avait été champion dès la 27e journée avec 25 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils sont en avance théorique sur ce Leverkusen version Alonso. Mais si Alonso continue de motiver ses troupes, ils peuvent très bien battre le record, cette fois-ci de 2013 de Jupp Heynckes avec 90
points
par exemple.
Incroyable. Fred, en Espagne aussi, on parle beaucoup de Xavi Alonso. Je rappelle, un très jeune entraîneur. C'était seulement sa deuxième saison à la tête d'une équipe professionnelle. Et t'es adjoint à la Real Sociedad chez les jeunes, c'est ça?
Il a été entraîneur du B.
Du B.
De la B, de l'équipe B. Très bien d'ailleurs, on voyait déjà son style, quoi. Mais de toute façon, enfin, je veux dire, moi je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui, c'était le Mondial 2014, c'était au mois de mars, où il sentait déjà que l'Espagne allait se faire, il craignait vraiment que l'Espagne prenne la porte dès le premier tour. C'est-à-dire qu'il, tu sens, le mec, il sentait les choses, quoi. Et puis, il a toujours été la courroie de transmission de l'entraîneur, sur le terrain. Non, parce que ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est le fait que des journaux comme AS et Marca, avec des matchs de Ligue des Champions essentiels demain après-demain, on fait leur une sur Xabi Alonso et le Bayern Leverkusen.
C'est lui en portrait.
Mais c'est la grosse photo.
C'est pas en haut.
Non. Sport et Mundo Deportivo ont fait ce qu'on appelle des bandeaux, mais AS et Marca, c'est la pleine page. C'est-à-dire la grosse info du jour, c'est Xabi Alonso champion d'Allemagne quand même. Donc c'est dire ce qu'il représente dans le football espagnol. Genre une semaine où il y a pas trop de matchs importants, tu pourrais dire ok, mais là, enfin, on a quand même Barça PSG.
Comment tu l'expliques? La fierté d'avoir un ambassadeur comme ça en Allemagne, un homme qui incarne une nouvelle génération d'entraîneurs.
Totalement. Et la fierté, et aussi parce qu'on sait qu'il sera un jour l'entraîneur du Real. Donc il y a un intérêt très important à le suivre. Et le choix qu'il a fait, on en avait discuté avec Polo, de rester, de pas partir à Liverpool ou au Bayern, c'est d'être prêt dans un an ou dans deux ans pour le Real Madrid, qui sera quoi qu'il arrive un jour son club. Même si j'en ai parlé avec son agent la semaine dernière, lui, il dit qu'il n'a pas pris cette décision-là pour ça. Mais il y a une vraie fierté de voir cet entraîneur, pur produit de la formation espagnole. C'est quelqu'un qui...
Il a une très bonne image. On parle beaucoup de son humilité aussi en Allemagne, mon cher Polo, quand on parle de Xabi Alonso, qui aussi, rappelons-le, la saison est loin d'être terminée, il a la possibilité de faire un triplé. Bundesliga, Coupe d'Allemagne...
Vas-y. Et l'Europa League. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que si j'ai parlé de Pep Guardiola version 2013-2014 et du titre, et qu'ensuite le club, l'équipe s'est relâchée, c'est qu'en fait, moi, je suis jamais rentré dans la logique où j'entends des personnes dire oui, mais ils peuvent gérer les matchs. Maintenant, on est déjà champion d'Allemagne, mettre ça de côté, c'est pas grave si on perd. Lorsque Pep Guardiola gagne à la 27e journée en 2013-2014, c'est juste avant la double confrontation en demi-finale contre le Real Madrid. Et ça fait 1-0 et 4-0 pour le Real Madrid. Et entre-temps, le Pep Guardiola va perdre 2 matchs de championnat. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien faire un débat. Est-ce que Leverkusen va fausser le championnat pour se focaliser complètement sur l'Europa League? Je ne suis pas persuadé, à l'aune de l'exemple que je viens de donner, que ce soit une excellente chose de se démotiver complètement en disant... On va se reposer en championnat. Maintenant, on peut prendre des 3-0, on s'en fiche.
Non, il y a une dynamique.
Il y a des dynamiques, ouais.
C'est 43 matchs sans défaite.
Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense peut-être que ce serait la plus grande des erreurs de vouloir être démobilisé pour le reste du championnat, en dehors du fait que tu peux fausser quelque part, entre guillemets, le championnat. Maintenant, c'est pas de leur faute, ils sont champions. Bon. Mais, donc voilà. Donc, faire un triplé historique, oui, pourquoi pas. Maintenant, quand tu vois les équipes qui restent, je persiste, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, à dire que ce n'est pas une grande équipe. Lorsqu'on voit, par exemple, les Bayern d'il y a une dizaine d'années, quand tu vois les effectifs qu'ils ont, quand tu vois même le grand Bayern de 96-2002 avec Balak, Zé Roberto et compagnie, c'est pas tout à fait le même niveau de l'équipe. Par contre, c'est une grande performance qu'ils ont réalisée.
On prolonge dans un instant sur le mercato du Bayer Leverkusen. C'est intéressant de savoir si tout le monde va rester ou pas, notamment Florian Wirtz. Et puis on ouvre la Ligue des Champions. Manchester City s'avance-t-il en favori face au Real Madrid? On en parle avec Julien Laurence. Restez avec nous, c'est l'After, Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamain. Rôle de dame, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr, 21h45, hein, votre rendez-vous. Vous, les afteriens qui écoutez les drôles de dames le lundi soir, vous nous appelez le 32-16, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien sur Manchester United, par exemple, sur Séville, n'hésitez pas, sur Monza, par exemple aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Pour finir, mon cher Polo, sur le Bayer Leverkusen, c'est la grande question, bien sûr, qu'on a déjà évoquée, parce qu'on sait que souvent dans l'ivresse d'un titre aussi historique que celui-ci, souvent tout le monde annonce qu'il va rester la saison prochaine, parce que le groupe est formidable, parce que le public est merveilleux, parce que la ville est splendide. Est-ce que ce sera le cas au Bayer Leverkusen? Est-ce que certains ont déjà annoncé qu'ils allaient rester dans le sillage de Xavi Alonso, hein, depuis plusieurs semaines déjà?
Évidemment, l'actif le plus important, c'est Florian Wirtz, sa famille a communiqué en disant qu'il allait rester une année de plus. Ah. C'est important. Il y a même des nouvelles sur le fameux Jonathan Tall, international allemand, qui pourrait être titulaire à l'Euro, qui lui n'a plus qu'un an de contrat, était le seul dans une situation un peu compliquée au Bayer Leverkusen. Il voulait partir en Première Ligue, mais apparemment il serait prêt à prolonger. Il nous fait ça de toute façon quasiment chaque année. Et puis la seule autre possibilité, c'est le cas de Frimpong, qui a une clause dans son contrat à 40 millions.
C'est faible pour le joueur que c'est.
Je suis pas tout à fait.
J'aime bien le joueur, quoi.
Mais je voudrais bien voir qu'il soit plus constant. Le jour où il sera aussi constant que Grimaldo, je pense qu'il voudra beaucoup plus.
Frimpong, ça marche très bien dans un système.
Ouais, exactement.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc il est aussi inconstant lors de ses rencontres. Sinon, globalement, il n'y a pas de raison que cette équipe explose. Le vrai problème et la vraie question derrière, c'est est-ce que Leverkusen, après cette saison, peut réitérer en championnat l'année prochaine la même chose? Je pense que oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du court-termisme, parce qu'en 2025, Wirtz ne sera plus là. Qui dit Wirtz parti, Boniface, on verra ce qu'il va faire au bout de 2 ans. Si Xabi Alonso part, on sait très bien que ça va être compliqué de conserver toutes les autres personnes. Et là, on est dans une situation très différente du Borussia Dortmund de 2011-2012, parce qu'on était vraiment dans une longue création avec un coach qui était allemand en plus, Jürgen Klopp, qui était en train d'apparaître sur la place internationale, et qui arrivait par la suite à être en finale de Ligue des Champions. Donc je pense, et en plus, Leverkusen, et c'est tout le problème de ce club qui, n'oublions pas, est un Werksclub, est un club d'usine, un club de fabrique. Le mot Werk, c'est la fabrique à l'ancienne dans le capitalisme. C'est de ne pas dépenser plus qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dominer le football européen alors qu'il pourrait très bien le faire. Donc on ne va pas changer le modèle. On va continuer avec des jeunes joueurs, les pépites, en espérant faire des plus-values, d'être compétitif, évidemment, en Bundesliga pour être dans le top 4, mais on ne va pas changer le modèle.
Voilà pour le Bayer Leverkusen. Ligue des Champions, cette semaine, les matchs, les quarts de finale retour, bien sûr, avec mercredi soir Manchester City, Real Madrid, après le 3 buts partout à l'aller, hein, somptueux, spectaculaire, à tous les niveaux. Julien, préparation tranquille pour City, victoire 5-1 contre Luton, qui leur permet de prendre la tête de PL, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs du titre. Est-ce que ce match a livré des enseignements sur ce qu'a prévu de faire Pep Guardiola?
Non, pas du tout. Il a mis au repos Rodri, qui avait d'ailleurs dit après le match du Real, le match aller, qu'il avait besoin de se reposer, qu'il avait beaucoup trop joué. C'est vrai qu'il a beaucoup joué et pour son club et pour son pays aussi. Donc il a eu son petit week-end de repos. Phil Foden aussi, qui avait fini la rencontre au Bernabeu avec le le trophée du joueur du match, mais aussi avec des crampes et des petits coups à droite, à gauche. Donc lui aussi, il s'est reposé ce week-end. C'était très bien. On a vu Kevin De Bruyne qui a été très bon. On a vu Erling Haaland qui a marqué, Gvardiol qui a encore marqué du pied droit. Je sais pas ce qui lui arrive. Ouais. Et puis un très beau but de Mateo Kovacic aussi, qui pour lui aussi, c'est un match un petit peu particulier, encore une fois. Donc tout va bien. Et en plus, comme on l'a dit, on en parlera tout à l'heure, ils ont eu un très joli cadeau de la part de Crystal Palace et d'Aston Villa le dimanche. Donc un week-end parfait finalement pour Pep Guardiola. Il faisait même beau à Manchester.
De Bruyne, titulaire ce week-end, qui sera bien là également mercredi soir. Mon cher Fredo, toi, est-ce qu'il y a un vent d'optimisme à Madrid avant d'aller à Manchester ?
Oui, bien sûr. Oui, il y a optimisme parce que les gens ne regardent pas les résultats, en fait. Les gens qui connaissent le foot en Espagne regardent le jeu, en fait, ce qui s'est passé. Et le Real était très compétitif à cette équipe de City. Et c'est ça qui compte, en fait. Et l'optimisme qu'il y a lié à, on va pas revenir sur toute l'histoire.
C'était presque rassurant pour eux, presque.
Ah oui, c'était rassurant. Oui, c'était rassurant. Oh, oui, parce que quand même, t'es mené deux fois. Ouais. Tu reviens comme ça. Enfin, il y a quelque chose de. Et en plus, il y a le sentiment que tu as très bien joué et tu as marqué trois buts à City sans Bellingham, en fait, parce que Bellingham fait un très très mauvais match. C'est quand même ta grosse recrue, ton meilleur joueur depuis le début de la saison. Donc là, et puis pareil, pour la préparation, elle a été très facile. Hein. C'était vraiment un match d'entraînement sur la pelouse de Mallorca en français, oui. Et donc but de Tchouaméni d'ailleurs, très très beau but. Tchouaméni qui sera pas là puisqu'il est suspendu. Entre parenthèses, il y a eu des insultes racistes aussi contre Tchouaméni après son but dans le stade de Mallorca. Donc les gens qui disent que c'est à cause que Vinicius, c'est parce qu'il provoque, ben Tchouaméni provoque. Tu vois, voilà, c'est il y a vraiment du racisme en Espagne. Je ferme la parenthèse. Et donc non, il y a un optimisme alors qui est modéré parce qu'ils vont pas dire ah, c'est fait, etc. Non, il y a rien de fait. Mais c'est vrai que les sensations sont très bonnes. Et moi, le soir même dans le vestiaire, ce qu'ils disent au Real, c'était on va gagner à City. C'est-à-dire que les propres joueurs après la rencontre, leur ressenti c'était on va gagner à City. Voilà, c'était le message qu'ils se transmettaient en privé. Les premiers à savoir s'ils ont bien joué ou pas, ce sont les joueurs. Mmh. Enfin, c'est là-dessus. Donc voilà. Après, voilà, ça va être. On imagine que ça va être encore un match spectaculaire et que de toute façon, qui après avoir vu le match aller peut donner un pronostic sur cette rencontre?
Bah, je sais pas ce que vous en pensez. On met encore City favori, légèrement favori, même si ce qualificatif a pas trop de sens. Mais bon, City qui reçoit, City qui peut faire mieux aussi qu'au match aller. Julien, comment tu vois ce rapport de force 7 jours, 8 jours après?
Alors du côté de City, on est aussi confiants. Ils se sont trouvés bons, notamment en seconde période au Bernabeu. Même s'il y a ce but du 3-3 qui vient, alors qu'ils considèrent qu'ils auraient pu gagner 3-2. Je pense que ce sera un match encore très ouvert et qui finalement ressemblera beaucoup au match aller, finalement, parce que le Real jouera de la même façon. À l'extérieur, ils ont joué à domicile comme s'ils avaient joué à l'extérieur, finalement. C'est un petit peu pareil dans la tactique et qui a très bien marché. C'est pas une critique du tout de la tactique, c'est la façon de jouer qui sera.
Ils avaient quand même bien renforcé le milieu de terrain. Il y avait 4 joueurs qui savaient défendre au milieu de terrain.
Oui, bien sûr. Et je pense que si Kyle Walker, Edrour et Pep Guardiola dit qu'il pourrait jouer, effectivement. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si tu pourrais l'aligner d'entrée ou pas, parce que si après il risque de se reblesser ou quoi, ça resterait compliqué. Mais forcément, avec Kyle Walker, ne serait-ce que pour l'adverse, pour que Vinicius se dise, oh, je pense que si Vinicius il voit Akanji et si Rodrigo voit Akanji, ils se disent, bon, on va lui faire la même chose qu'à l'aller. Si tu vois Kyle Walker, tu peux dire, bon, ce ne sera pas la même histoire qu'au match aller. Donc, ne serait-ce que pour psychologiquement avoir ce petit boost-là, si Walker pouvait être titulaire, je pense que ce serait une très bonne chose pour City. Donc à mon avis, ça va vraiment être encore une fois super intéressant. Je sais que Volendam joue encore, il joue à chaque fois un soir de Ligue des Champions. Je sais pas ce que Yo va faire,
même pas il réagit quoi.
Non mais Julien, arrête de faire le teubé de Twitter, tu vaux mieux que ça.
À un moment donné,
le discours c'était pas ça. Donc essaye de faire autre chose que les mecs sur Twitter.
Mais te vexe pas, ça chante gentiment. Tu sais bien que tu l'as regardé.
Teubé sur Twitter, c'est un pléonasme.
Voilà, Polo voulait rajouter son petit grain de sel, évidemment. Mais Polo est sur Twitter aussi, vous le savez, vous pouvez trouver son compte qui a cartonné en 6 mois, c'est incroyable.
Très bien.
Cinéma, vélo et échec. Voilà. Et football aussi. Un mot quand même. Tchouaméni suspendu. Eder Militao a fait son retour ce week-end.
Ouais,
certains pensent qu'il allait débuter, mais bon.
Il a vraiment joué quelques minutes. Enfin, franchement. Voilà.
Blessé depuis août 2013, 2023.
Ben oui, non, mais je veux dire, il a eu le ligament croisé et tout. Enfin, je veux dire, ça me paraîtrait. Alors peut-être que pour une hypothétique demi-finale, on pourrait le voir un petit peu, mais oui, là, mais là, mais là il a deux fois trois minutes dans les jambes. Enfin, ça me paraît pour un match.
Donc, solution, ce sera quoi s'il n'y a pas de
Chouameni? Nacho.
Nacho, forcément.
Et mais Nacho, c'est franchement cette saison, c'est très dur pour lui. C'est vraiment très dur. Là, c'est vraiment le gros coup. Après, Chouameni fait un mauvais match, mais physiquement, Nacho, c'est vraiment plus que ça a été, quoi. Donc, et il faut que Rudiger soit aussi bon. Rudiger qui a été absolument monstrueux face à Haaland. Il faut que Rudiger refasse le même match. Voilà, donc c'est non, il y a
et que Bellingham en face un autre également.
Et que Bellingham aussi, donc il y a plein d'inconnus en fait. Et en fait, on sait que ça va être bien, mais il y a plein d'inconnus. Et ça qui est génial.
Regardez Bellingham 2024, 12 matchs, 3 buts. Hein.
Non, c'est pas du tout. Il est
17 en 2023.
Il est en train de digérer son arrivée en Espagne. Il y a toujours un moment, contre doute, etc.
Contre-coup.
Ouais, un contre-coup, tout ça. Il y a une grosse excitation à son arrivée. Il expose tout le monde, etc. Puis après, à un moment, il y a une vraie baisse. Mais bon, c'est le moment de. De quelle matière est fait ce joueur? C'est dans des matchs comme ça qu'on va le voir, quoi. T'es pas bon à l'aller. On va voir au retour. On va parler tout à l'heure d'Mbappé, pas bon à l'aller. On imagine qu'il va être meilleur à Barcelone demain soir. Donc c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc moi je trouve que j'ai très très envie de voir ce match.
Trois parties de l'aller, la suite mercredi soir. Ce sera sur RMC en direct, bien sûr. C'est l'heure de la première lutte de la soirée, qui est un grand succès, m'a dit Johan, hein, qui a reçu des louanges des Afteriens vendredi soir sur la minute musicale. Elle est italienne. C'est parti, on envoie la musique. C'est un classique,
grand clé belle.
Tony Renis, Quando, 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 avec les multiples reprises, interprétations, remixes qu'il y a eu partout dans le monde de ce très grand classique. Co-auteur d'ailleurs, cet homme-là, de l'hymne de l'AC Milan en 1988. Grand fan du coup de l'AC Milan. Et c'est Berlusconi qui lui avait demandé, Berlusconi qui venait de prendre le club il n'y a pas très longtemps, et comme il avait commencé à le remettre au plus haut niveau, même européen, très rapidement avec Sacchi, il lui avait dit, écoute, je sais que t'es supporter du Milan, on est en train de prendre une dimension européenne assez importante, ce serait bien que tu nous fasses un petit hymne. Donc il s'était exécuté avec grand plaisir. Et on va parler des gardiens, parce que on a eu un samedi, très très compliqué en termes de spectacle. En termes de but surtout, parce qu'il y a eu un but en trois matchs, donc c'était pas génial, 2-0-0. Notamment le derby de Turin qui était quand même pas génial. Mais à chaque fois dans ces matchs-là, il y a eu des gardiens qui se sont montrés vraiment particulièrement rigoureux sur leur ligne de but. Je pense à Chesney, je pense à Caprile sur le match d'Empoli et Falcone de Lecce. Et c'est vrai que cette saison, c'est une constante. Je crois que j'avais déjà fait un petit truc sur les gardiens en début de saison. Et on a vraiment des gardiens de très très bon niveau, y compris dans les petits clubs. Je parlais de Falcone à Lecce, Caprile à Empoli, et je vais m'arrêter juste un instant sur Caprile. Parce que lui est vraiment excellent. Alors il est arrivé, il devait remplacer Vicario qui est chez Julien maintenant. Vicario qui est à Tottenham, qui d'ailleurs fait plutôt une bonne saison d'après ce que j'ai cru comprendre. Et Caprile est arrivé avec cette pression-là, et en plus on l'a même pas mis titulaire tout de suite. Lui il arrivait, il est prêté par Naples, et il avait fait une super saison avec Bari, failli monter en Serie A, etc. Et il arrivait remplaçant, et puis au bout d'un moment on s'est dit bah il est tellement plus fort que le titulaire qu'ils l'ont mis à son tour dans les buts. Et depuis qu'il est là, en fait, il rassure tout le monde, il est très explosif, il est très très bon sur sa ligne. Ça suffit pas toujours, mais ce qui est clair, c'est que si Empoli veut se maintenir en Serie A, et ils sont clairement dans la lutte pour ça, ils pourront dire merci à Caprile. Ils auront besoin d'un bon Ilia Caprile jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, l'année prochaine, peut-être, parce que c'est très incertain autour de Meret à Naples, peut-être qu'il pourrait revenir de près et être le gardien numéro 1 à Naples.
Italie, grand pourvoyeur de grands gardiens, bien sûr. Hein. Un top 3, top 3 gardien italien, histoire, Johan.
Dinosov.
Ton top 3. Buffon, Dinosov.
Zoff, Buffon, après. C'est dur, hein. Après.
Polo.
On a eu très bon, nous, en Angleterre, hein, Taibbi.
Ouais, non, pas celui-là, du coup. On choisira un autre. Bon. Non, mais après, entre. Moi, j'aimais bien Angelo Peruzzi.
Spaliuka aussi, je me rappelle.
Spaliuka, Toldo. On a eu quand même des très, très bons gardiens. Mais je mettrais peut-être Peruzzi quand même.
Peruzzi, quand même, ouais. Sur le podium.
Juventus et Lazio, il a été très, très fort. Ouais.
Bon. Dans un instant, les amis, la suite de Génération After avec les drôles de dames. On va évoquer notamment la fin de saison de l'AC Milan avec toi, mon cher Johan.
Non, je viens tout de suite de tilter Zenga, évidemment. Zenga. Walter Zenga de l'Inter, bien sûr.
Reste avec nous, on revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
avec les quatre rôles de dames. À partir de 21h, on parlera du Barça PSG, bien sûr, demain soir à Montjuïc, en Catalogne, avec les infos de Fred, la composition, les éléments que l'on pourra vous donner dès ce soir. D'abord, je voulais qu'on parle également de l'AC Milan ce soir avec toi, mon cher Johan. On parlera de Liverpool, hein, qui avec une semaine à peu près similaire, même si le Milan a quand même pris un point hier, après sa grosse défaite, sa défaite étonnante contre la Roma en quart de finale aller de Ligue Europa en milieu de semaine. Un mauvais 3-3 contre Sassuolo qui n'avait pas marqué. Je regardais un 3 buts dans un match en 2024. Hein. Avant-dernière équipe de Serie A, qui en a collé 3 à San Siro. Ah non, c'était à Sassuolo.
C'était à Reggio Emilia.
C'est quoi le problème là, actuellement là? Pourquoi tout s'est
En fait, sur les deux matchs, il y a des points communs entre le match de jeudi contre la Roma et le match de dimanche contre Sassuolo. Le premier, c'est des vrais trous d'air défensifs qui sont très surprenants parce que assez inhabituels. L'organisation de Pioli, elle plaît pas. Il y a des supporters du Milan qui en peuvent plus de Pioli, où c'est un peu toujours la même chose, etc. Mais globalement, c'était quand même assez solide, assez propre, assez concentré. Où lui, avec des joueurs parfois bons sans plus, en a fait quand même des très bons joueurs aussi. En tout cas, dans le collectif milanais, étaient devenus des très bons joueurs et des joueurs importants. Mmh. Et c'est vrai que là, sur les deux matchs, moi, il y a des choses qui m'ont vraiment surpris. Si on un court instant sur le match de jeudi contre la Roma. Moi, le début de deuxième mi-temps, alors pendant 70 minutes, Milan est dominé. Donc, ce qui est déjà assez problématique, je trouve. Non pas que la Roma ait des mauvais joueurs, loin de là, mais quand même, t'es censé être à un niveau au-dessus. Mais c'est plutôt que, en début de seconde période, il y a quand même eu des phases de jeu où t'avais l'impression que la Roma faisait un taureau à San Siro. Et ça m'a plus gêné parce que ils étaient tout le temps en retard dans toutes les courses. Ils en faisaient assez peu de courses, donc les joueurs de la Roma étaient assez libres de bouger, d'avancer, de reculer, de faire des déplacements latéraux et de trouver toujours un joueur libre, même pas simplement le troisième joueur libre. N'importe qui était libre, en fait, parfois en deuxième période à San Siro, en tout cas au début de seconde période. Donc j'ai été assez surpris là-dessus. Et ce week-end, ce qui m'a le plus gêné, je crois, c'est l'impression d'avoir des joueurs totalement passifs. Un peu comme contre la Roma, mais tu te dis, sur un match, allez, pourquoi pas ? Très bien, mais tu te dis, après avoir pris une petite claque quand même jeudi soir en Europa League, des critiques qui sont arrivées quand même un peu de la presse, Pioli n'était pas content, je pense que les joueurs n'étaient même pas contents non plus, les dirigeants n'étaient pas contents. Faire ce match-là, cette entame de match-là, Sassuolo, où tu prends deux buts en 10 minutes, où tu es totalement passif, amorphe, tu ne réagis à rien, les joueurs de Sassuolo, t'as l'impression que c'est des avions de chasse, alors que pas du tout. Enfin, t'en as certains qui sont bons, mais pas à ce niveau-là. Et t'as un Kjær qui est catastrophique, t'as un Thio qui a les fesses entre deux chaises parfois sur les occasions, entre sortir sur son joueur mais faire reculer pour couvrir ou faire le déplacement latéral pour aller doubler sur le côté, mais en même temps t'as un joueur qui vient dans sa zone, donc ça a été très très compliqué.
C'est pas une décompression Serie A, ils sont tranquilles en Serie A, ils seront Ligue des Champions, ils seront top 4, ils ont 6 points d'avance, ils sont deuxième.
Mais en fait tu devrais pas avoir j'ai pas envie d'y croire en fait, parce que tu as clairement affiché que t'avais envie de gagner l'Europa League. Si tu as envie de gagner l'Europa League, tu ne peux pas faire 70 minutes comme ça à domicile contre la Roma. On n'est pas en train de parler de... La Roma a beaucoup progressé avec De Rossi, je l'ai évoqué, il y a des joueurs qui sont bien, qui sont en forme, etc. Mais moi, ce que j'ai vu pendant 70 minutes, c'est pas acceptable de cette équipe de Milan. Tu peux perdre 1-0 à domicile, tu as des occasions, tu les mets pas, le match est un peu débridé, ça va dans tous les sens, tu le perds, pas de problème. Là, c'est pendant 70 minutes où ça a été compliqué. Et ce que tu vois surtout, c'est que quand ils accélèrent, quand un peu l'étincelle apparaît et que tout se remet un petit peu en ordre, tu retrouves la machine Milan. Contre Sassuolo, ils sont capables de... Alors évidemment, avec un grand Leao qui avait été sifflé jeudi soir contre la Roma, parce que lui aussi était tellement déconnecté, tellement à part, tellement à l'ouest, même sur le terrain, que les supporters l'avaient pris en grippe. Enfin, une partie, puisqu'après la courbe à soude, c'était les inhabituels, on va les appeler comme ça, l'avaient pris en grippe. Et les ultras, la courbe à soude, les habituels, l'avaient ensuite acclamé pour lui remonter un petit peu le moral. Et tu vois très bien que Leao, à Sassuolo, il a fait des dégâts mais incroyables. Mais parce que c'est ce type de joueur-là. Et moi, j'ai du mal à comprendre ces trous d'air qui ne sont pas des trous d'air de... Parfois, tu as des équipes blackout pendant 10 minutes, tu sais pas comment ça te tombe dessus, boum, 3 buts. Là, ça dure 70 minutes contre la Roma et ça dure un peu plus d'une mi-temps contre Sassuolo. Ça, c'est gênant. Et Pioli va vraiment devoir remettre tout le monde dans l'objectif de être un favori de Ligue Europa et donc de jouer, de se présenter mentalement en condition d'un vrai favori de Ligue Europa pour le match retour à Rome. Je suis à peu près certain qu'on verra pas un Milan comme ça à Rome.
C'est ça.
Je veux pas y croire. Je sais pas si c'est parce que je m'appuie sur ce que j'ai vu de Milan depuis plusieurs saisons maintenant avec Pioli, où c'est rare quand même qu'il déconnecte à ce point-là, ou si c'est un truc de se dire, ouais, c'est Milan malgré tout et ça ne peut pas être ça pendant 3 matchs d'affilée. Je sais pas quel est mon, mon leitmotiv pour croire à ça et pour croire, parce que finalement on pourrait très bien dire bah ça fait deux matchs qu'ils font pourri comme ça, pourquoi ils feraient pas un troisième. Moi j'ai envie de croire que en fait c'est deux erreurs et qu'ils sauront rectifier un peu le truc, parce qu'il y a aussi malgré tout des grands champions dans cette équipe de Milan.
Rendez-vous jeudi donc pour ce quart de finale retour, 21h, AS Rome, AC Milan. C'est parti pour la deuxième minute de la soirée. Elle est allemande, on envoie la musique s'il vous plaît.
Écoutez, s'il vous plaît. Geld oder Leben, qu'on pourrait traduire en français la bourse ou la vie. Ah. Ma grand-mère ajoutait la canne ou le parapluie. Mais le.
La mienne aussi.
Comme quoi, tu vois. Voilà, c'est pour les jeunes, vous n'avez pas le plus.
J'avais plomo ou plata en espagnol également. C'est ce que disait Escobar.
Exactement.
Escobar. Oui. Donc cette chanson, évidemment, c'est un groupe autrichien qui s'appelle EAVO, pour ceux qui connaissent, qui veut dire Erste Allgemeine Versicherung. C'est une petite blague par rapport aux assurances généralistes allemandes. Donc là, ça veut dire plutôt première incertitude générale. Donc c'est une. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette chanson? Évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture, la vente aux enchères, les appels d'offres pour la Bundesliga, notamment, y compris en Suisse, en Autriche et dans d'autres pays, au Luxembourg, etc., pour la période 2025-2029. Et donc la grande question qui se pose en Allemagne, c'est de savoir si on va continuer à recevoir plus d'un milliard d'euros par an de droits domestiques. Et donc tout ça, évidemment, commence à être un débat important en Allemagne. L'ouverture, et c'est aujourd'hui, vous avez le droit, les gars, de postuler.
Et la fermeture?
La fermeture, je ne sais pas du tout.
Je ne sais pas. Bon, on verra ça. En tout cas, j'aurai deadline.
Il y a un décor général. Par contre, ils sont très optimistes parce qu'ils ont, ils ont quand même des partenaires qui sont là.
1 milliard l'Allemagne actuellement.
C'est 1 milliard 160. Alors, en moyenne, c'est 4 milliards 640 millions sur 4 ans.
Sur 4 saisons. Ouais.
1 milliard 160. Il y a eu un rabais lié au Covid.
J'avais oublié. Que c'était...
Bah, c'est comme nous, en fait. C'est nos championnats, c'est pas... en Espagne, c'est 1 milliard.
C'est un peu moins d'un milliard, en Espagne.
Voilà.
On est tellement loin.
Et l'Angleterre, c'est 2, si je dis pas de bêtises.
C'est 200, je crois. 2.100, je crois. Ça, il me semble, 2 milliards.
Bon, voilà. La Bundesliga, c'est le deuxième chiffre d'affaires structurel européen.
Simplement. Bon, alors le débat sur le meilleur gardien d'Italie a fait réagir sur le chat, hein, bien sûr. On parle de Toldo également. Pourquoi pas Toldo aussi, pourquoi pas. Tu l'as cité, Toldo?
Oui, je l'ai cité.
Bon, évidemment, en Angleterre, personne ne sait de nom. C'est très étrange, là, parce que j'en parlais. Il n'y a pas, quoi. Voilà.
Bon, en Espagne, je considère que c'est. Il y a eu une grande histoire.
Il y en a peut-être, les clubs anglais, il faudrait regarder dans les années 20 ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, à peu près au siècle d'avant, au début, ouais.
C'est ça, non, non, c'est ça.
J'ai pas écouté.
Avant le football.
C'est quoi la question? J'ai pas entendu la question. Les gardiens. Peter Shilton, bien sûr.
Ah oui,
Kevin
Seaman.
Calamity James, vous avez oublié Calamity James? Non, il a rigolé quand même.
Oui,
un grand copain à moi, David James. Hein, je sais qu'il nous écoute, okay. Alors je passe le bonjour.
Bon. Voilà. Allez, on revient dans un instant pour lancer notamment la soirée de Ligue 2 avec Edouard G, qui intéresse particulièrement ce match aussi. Johan Crochet, puisque Angers joue ce soir contre Grenoble. C'est parti. Allons-y maintenant, le coup d'envoi à l'instant au Stade des Alpes. Bonsoir Edouard G.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Ça part dans quelques secondes. Ce sont les Grenoblois qui donnent le coup d'envoi. Ce match qui oppose deux équipes qui dévissent totalement. Hein. Grenoble, un point sur 24 sur les 8 derniers matchs. 7 défaites, un seul nul, une équipe qui visait les barrages le 5 février dernier, désormais qui vise le maintien. Angers, la chute est moins spectaculaire, mais quand même, Saint-Etienne est passé devant au classement et il faut au minimum ramener un petit point de cette partie pour essayer de reprendre la deuxième place au vert. Coup d'envoi donc à l'instant 0-0.
Dans un instant, la course au titre en Première Ligue, Liverpool qui sera à Arsenal aussi, puis la Talenta au programme qui commence son match ce soir en Serie A. Reste avec nous et le Barça bien sûr avant le PSG. C'est Génération After spécial Drôle de Dame sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Arnel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet, c'est Génération After avec les Drôles de Dames comme tous les lundis soirs jusqu'à 22h sur RMC. Je rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot. C'est bonsoir à Bam Bam qui assure la modération ce soir. Vous êtes nombreux à nous regarder. Vous pouvez commenter également sur le chat. Bonsoir à Nicolas notamment qui nous regarde. Alors, Julien, Jürgen Klopp est-il en train de rater sa sortie? Horrible semaine, commencée par un 0-3 contre l'Atalanta, achevée par une défaite affreuse affreuse, ignoble contre Crystal Palace à Anfield qui va ruiner peut-être les espoirs de titre.
Ouais, c'est vrai, semaine cauchemardesque. Tu as raison, dans les résultats en tout cas, dans les performances, c'était deux performances différentes. Autant contre l'Atalanta, ils ont été largement dominés, même s'ils ont eu quelques occasions. Mais bah, dans le jeu, dans les choix de Klopp aussi, de faire tourner autant contre une équipe pareille. Peut-être qu'il a pris ce match un petit peu à la légère, étant donné que c'était à domicile, il y avait de la tension avec les supporters, puisque Liverpool a décidé d'augmenter les prix des places de 2% pour la saison prochaine. Les supporters sont pas contents. Donc, il y avait pas mal de problèmes avant ce match contre l'Atalanta. Ensuite, ils ont été battus par une très belle équipe qui aurait facilement pu marquer 5 ou 6 buts à Anfield. Et puis après, ce match contre Crystal Palace, effectivement, hier, un match perdu 1-0, où encore une fois, la fragilité défensive de cette équipe, fait mal aux yeux, parce que même avoir la réaction de Klopp après le but de Crystal Palace, où il est là debout devant son banc et il dit waouh, waouh, et tu peux lire sur ses lèvres que même lui est choqué, même lui n'a pas l'impression de reconnaître finalement sa défense, son équipe, son collectif, cette équipe qu'il a construite et reconstruite plusieurs fois et qu'il a amené tout en haut finalement, et qu'il a peine est à la peine en ce moment, cette semaine, mais aussi avant. Même s'ils ont gagné contre Brighton par exemple, ils avaient eu du mal. Contre United, ils auraient dû gagner, mais ils n'ont pas gagné. Et encore une fois, ils ont eu des occasions contre Crystal Palace. Un autre jour, ils peuvent gagner 3-2, faire 3-3, gagner 4-3. Mais là, ça, même offensivement, ça fonctionne plus, ça clique plus. Darwin Núñez, Luis Diaz, Mo Salah, c'est compliqué. Ils marquent un but tous les 15 tirs maintenant. Et je crois, j'ai regardé tout à l'heure leur shot conversion, donc le pourcentage de tirs qui se transforme en but. Et l'un des plus bas de première ligue, ils sont en dessous de la barre des 8% ou 7%, c'est catastrophique. Donc il y a un gros problème défensif, ça on l'a dit souvent cette saison, où ils prennent des buts un peu trop facilement, comme dimanche contre Crystal Palace. Et puis maintenant, avant ils se rattrapaient avec cette activité offensive, ces joueurs qu'ils ont offensivement incroyables, les joueurs sortis du banc aussi. Et là c'est plus le cas, et quand forcément ni l'un ni l'autre ne va, c'est compliqué pour eux. Et ils sont encore en course pour le titre, c'est pas la question. Ils sont à 2 points derrière City. City peut aborder des points, Arsenal aussi, ils peuvent, bien sûr. Donc c'est encore possible. En Ligue Europa, à mon avis, c'est cuit. Mais en championnat, ça peut être encore possible. Mais ils sont passés de premier à troisième en l'espace de 10 jours.
Mo Salah, on nous en parlait également sur le chat. Il est plus tout à fait celui qu'il était avant sa blessure. Hein. Ça, c'est incontestable, Julien.
Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Alors oui, il y a eu la blessure, il y a eu le départ à la Cannes, la blessure à la Cannes, le retour. Après, il marque contre United, il marque contre Brighton, il marque contre Brentford. Donc il y a des buts aussi. Mais c'est vrai que t'as l'impression, quand tu le vois, je pense qu'il y a il y a l'impression visuelle qu'on a déjà de lui sur le terrain ou quand on est au stade. Il y a les stats qui ne mentent pas non plus, surtout si vous êtes fan de data et de stats. C'est vrai qu'il est moins bon. Est-ce qu'il est moins soutenu aussi? Est-ce qu'il est moins bien entouré? Est-ce que, par exemple, le fait que Trent ne soit pas là derrière lui, que Szoboszlai, il formait un très joli trio tous les trois comme ça en première partie de saison, Trent, Szoboszlai et Salah. Est-ce qu'il y a peut-être aussi son avenir qui lui trotte un peu dans la tête? Il lui reste qu'un an de contrat. Est-ce que Liverpool va lui offrir quelque chose encore? On ne sait pas. Il a 32 ans maintenant. Est-ce que c'est le moment pour partir en Arabie Saoudite? Est-ce que c'est pas le moment? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui peut-être le gênent aussi. Et puis il y a quand même ce collectif qui est moins bon, il faut le dire, qu'il y a encore quelques semaines.
C'est dommage pour Jurgen Klopp, hein, de manquer cette sortie-là, alors qu'il pouvait, il peut encore miser sur un doublé, même si
c'est quadruplé même, Nico. Ouais, quadruplé, ils étaient en course pour les 4. Pour l'instant, ils ont une coupe de la Ligue et puis
ça fera peut-être 0. Ouais. On verra ça, bien sûr. Tiens, Johan, un mot sur l'Atalanta, hein, qui va recevoir Liverpool 3-0 à Anfield au match aller, qui est sur le terrain là actuellement, après 8 minutes de jeu, 0-0 contre Hellas Vérone. Comment on aborde ce match? On se dit attention, ça reste Liverpool.
Ils le disent d'autant plus qu'ils ont pris 5-0 en Ligue des Champions à domicile contre Liverpool il y a 2 ans de mémoire, ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement.
Ouais, Covid.
Ouais, c'était il y a 3 ans. Donc, même si époque particulière, match de phase de groupe de Ligue des Champions et pas match à qualification, à élimination directe, ce que vous voulez, très bien. Mais il y a quand même un gros souvenir de l'impression qu'avait fait Liverpool à Bergame. Donc non, très heureux, un peu surpris même au sein du club de la victoire à Liverpool. Le sentiment qu'ils pouvaient en mettre aussi beaucoup plus, comme l'a dit Julien, le sentiment aussi qu'ils auraient pu en prendre un ou deux à 0-0, qui aurait peut-être fait basculer le match d'une autre façon, même si Liverpool fait pas un grand match. Mais oui, on est dans une espèce de transe émotionnelle à Bergame, parce que ça
carrément
serait, ouais, bah parce que
bah tu, oui, forcément, oui.
Ça pourrait être une demi-finale européenne. Ils en ont connu une, c'était en 88, c'était en Coupe des Coupes. Ils venaient de monter en Serie A, donc c'était une équipe promu.
Il y a eu un quart de Ligue des Champions depuis.
Ouais, mais en une demi-finale, il n'y en a eu qu'une en Coupe des Coupes, ouais, en 88, contre Malines, de mémoire.
Ah oui, belge.
Qui Malines avait gagné d'ailleurs la Coupe des Coupes contre l'Ajax en finale.
Tout à fait. Notre époque.
Autre écope avec Ad De Mos, l'entraîneur de, ouais, de Malines. Mais oui, on est dans cette veste de transe parce qu'on a une attente incroyable de retrouver ce niveau de la compétition en se disant en plus que il y a possibilité derrière d'aller en finale. Donc,
soit Benfica, soit Marseille. Hein.
C'est ça. Et je peux vous dire que en Italie, le rêve encore d'une finale 100% italienne, comme on avait très souvent dans les années 90 avec la C3, est de retour un petit peu avec beaucoup de nostalgie. Je lisais un édito il y a 3 ou 4 jours, en disant, ouais, qu'est-ce qu'on était fort dans les années 90, en